la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM et cette semaine, « Je lire », je commence tout juste un livre que j'ai eu la chance de recevoir pour notamment les préparations d'un festival de littérature qui s'appelle Les Affluents et qui est une biennale du côté d'Ancenis. Ça aura lieu fin mai, on en reparlera sur cette antenne. Et alors, eh bien, il y est question de croiser le verbe entre un garçon déjà reçu sur cette antenne, Clément Rossi, et Adrien Giraud, autre auteur qui réside à Nantes et qui vient de publier en septembre dernier aux éditions de l'Ogre un troisième livre baptisé « Juste un coup dur ». Ça pourrait sembler comme ça, être comme une sorte de calembour un peu douteux. « Juste un coup dur », c'est le nom du personnage, du héros, du narrateur de ce roman d'Adrien Giraud. Et c'est pour ma part la première fois que je lis le travail de cet auteur et également le travail de cet éditeur, les éditions de l'Ogre, qui font un très beau travail de mise en forme des livres. Je tiens dans la main ce relativement petit livre, un format pas exactement carré, mais un petit rectangle qui est assez souple avec une couverture ocre jaune et un dessin, un schéma à peine esquissé d'un garçon en équilibre, bras levés sur une bicyclette de dos, semble-t-il. Et il est question d'adolescence, il est question peut-être de mise en danger à l'image de cette couverture, mais ça je n'en sais rien encore, puisque je commence tout juste ce livre qui compte quelques 165 pages pour 19 euros. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour le savoir, pour le comprendre, je vous donne à entendre deux petits fragments, puisque le livre est découpé en chapitres très courts, avec un titre en caractère gras, et puis la parole, la voix, parce qu'on l'entend vraiment, de Juste un coup dur. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est une très belle réussite entre une forme d'oralité, mais aussi une attention littéraire assez puissante. On n'est jamais dans l'exotisme, ni même dans le jeunisme ou l'effet de mode, mais on flirte avec tout ça. Poussez-vous. Ça commence toujours un mois plus tôt, celui d'avant le départ sur l'île. L'attente est interminable. Ma mère empaquette tout dans des poches. Le couloir de notre micro-pavillon, on dirait Emmaüs. Jean-Marc entasse les trucs lourds dans le coffre. Au bout de 15 minutes à tout casser, mon sac est prêt. Des shorts, des t-shirts, un jean et basta. De toute façon, on laisse des vêtements de pauvres là-bas, dans les caravanes. Quand tu les retrouves, ça sent un mélange d'humidité et de sapin. Ma mère veut toujours les relaver, mais vas-y, on est des pauvres ou on n'est pas des pauvres. Je passe des soirées à apporter des sacs remplis à Jean-Marc, penché dans les entrailles du Citron, son camion. Carrosserie jaune infâme et capot relevé pendant des heures. Des fois, il plonge tellement profond qu'il ne tient plus que sur une jambe et que sa tête disparaît en entier. Il veut être sûr que son carrosse tienne le choc du voyage. Côté pratique, la bouffe coûte une blinde sur l'île, alors on prépare un stock de boîtes de conserve de sécurité. Plein de pâtes, plein de sauces qui vont avec. Ma mère dit, dans la vie, tu passes ton temps à cuisiner. Tu te lèves le matin, faut réfléchir au midi, t'as pas fini le midi que le repas du soir arrive. Avec Jean-Marc, qui mange liquide, on n'est pas aidé. Hormis tous les 36 du mois, quand il est de bonne humeur et qu'il transforme la cuisine en champ de bataille. Faut le voir tirer la langue chaque fois qu'il découpe un ingrédient, on dirait qu'il court un Ironman. 5 minutes après, le gars est éclaté et laisse tout en plan. Il se pose cash dans le canapé, il s'ouvre une nouvelle canette et, en peu de temps, il ronfle. Ma mère dit rien. Elle creuse d'autres plis sur son front. Moi, je débarrasse. Je compose des petites insultes dans le silence. Chaud d'être feignant à ce point. Le gars, c'est comme Messi. Quand il veut, il envoie du rêve. Et quand il n'a pas envie, le mec fout rien. Ma mère est au courant qu'il existe un Jean-Marc public et un Jean-Marc privé. Chez nous, c'est la version qui brille jamais. Team casquette et saut et croque pieds nus. Et alors, venez nous chercher. Pendant tout ce mois, les placards sont vides et les trucs à manger déjà rangés dans une caisse. Que des bouts de pain durs à la place. Tu manges une biscotte, en fait, c'est du pain. Les soirs où on va faire les courses, ma mère s'arrête des plombes dans chaque rayon. Quand elle est de retour au chariot, il suffit de regarder la gueule des produits pour deviner comment c'est bon. Il crée du cousu pauvre. Genre, sur le café, T'as un dessin d'une tasse qui fume. Ils doivent se dire, ils vont adorer les crevards, la tasse qui fume. Allez, ça part. À la caisse du supermarché, je serre toujours les fesses. C'est pas qu'on est trop fauché pour payer, mais ma mère, elle a tendance à oublier sa carte de crédit. Je l'attends trois plombes derrière le chariot. Tout le monde me prend pour un cassos. Je te jure, si un jour Noumi voit ça, je suis mort. Ensuite, avant de partir, il faut laver le micro-pavillon de fond en comble. Ordre de ma mère. Le temps qu'on passe à faire ça, c'est abusif. Plus le jour du départ approche, moins ma mère pense qu'on est prêt. À la fin, limite, tu voudrais que le voyage soit annulé. T'as l'impression que tu vas te transformer en gant de vaisselle. Jean-Marc, t'inquiète, il s'en fait pas. Généralement, tu peux le trouver à la pêche le soir du départ. Il est tellement préoccupé qu'il siffle, frère, il sifflote. La veille du départ, j'arrose les potes de texto pour dire l'heure du bateau et surtout pour leur rafraîchir la mémoire. Il n'y a rien que je déteste plus que quand personne ne me guette à la descente. À part les gens eudes qui viennent squatter les plages avec leurs vieux voiliers et leurs bermudes à rouille. Ils disent pas voilier, mais gréement. Bref, généralement, on est dans les derniers vacanciers à débarquer. Brian se ramène sur zone dès la mi-juin. Donc, quand je suis sur le pont du ferry, que je vois le port et toutes les routes qui montent à partir de là, je cherche un maillot fluo et je vois à côté un gosse avec un gigantesque sourire qui me fait des grands signes. C'est Brian et Steven, son petit frère. Ma mère me dit « T'es content de retrouver tes copains ?» Et évidemment, je m'éloigne d'elle direct. Pendant ce temps-là, Jean-Marc est déjà en place, dans la voiture, en cale. Il ne veut pas perdre de temps et est tout installé en vitesse, sur le terrain. Comme ça, on n'empiète pas sur l'heure de l'apéro. Ma mère et moi, on traîne sur le pont. C'est toujours la première fois. Les bateaux, l'odeur, l'huile qui brille à la surface, les goélands, le mazout, l'algue rance, les chichis du stand à côté du glacier. Poussez-vous, on arrive. Je connais la musique. Je pensais rester au portail. C'est ce que me demande Brian par texto. D'habitude, attends-moi au portail, j'arrive. Précision, je me mets toujours à un mètre du portail à cause de l'odeur de pisse de Steven, qui partout marque son territoire. Je ne suis même pas descendu de ma selle que le père de Brian arrive avec un grand sourire. Il a l'air encore plus stock que la dernière fois. Il dit « Oh !» pour dire bonjour. « Oh, Justin !» Et après « Reste pas là, oh, entre !» Alors que je referme le verrou du portail, Raska me saute dessus. On fait le tour de la maison, les tongs du père de Brian font un bruit terrible, schlac, schlac. On arrive à l'arrière de la maison et toute la famille est en train de manger des gâteaux apéro autour de la table du jardin. Brian me check d'un air désolé. Puis il dit « Salut gros, t'as pas changé ?» avec l'accent du sud. Je réponds « Beau gosse » en faisant un bruit de bouche raté. « Oh !» dit le père de Brian, « qu'est-ce que tu bois ?» Il me demande si je veux une bière ou un apéro. J'ai envie d'un pastis, mais je connais la musique. Je vais repartir avec trois verres épais comme des yaourts et je ne pourrai plus tenir debout. Donc je dis « Bière, bière s'il te plaît. » Steven, à l'autre bout de la table, est tout sourire. Il demande si je ne préfère pas goûter la villageoise de son père, et il désigne l'imposant cubit de vin rouge et son robinet en plastique en suspension dans le vide. Marie-Pierre rigole, elle dit « Mais non, c'est du super vin qu'on a ramené !» Le père de Brian revient, deux bières dans la main. Elles sont tellement grosses, ses mains, qu'on dirait qu'il tient des craies. Il pose les deux bouteilles devant moi, parce que ça m'en fera une d'avance. Je regarde le chantier dans leur jardin. Jean-Marc dit que le père de Brian ne s'est pas planté un clou. En réalité, c'est Steven qui s'occupe de tous les trucs à faire dehors. Il est toujours fourré à pousser une brouette et à tailler ce qui dépasse. Avant que son père ne se rassoie, il dit « Oh, papa !» en levant son verre moutarde vide. Et le père de Brian secoue la tête, pour lui-même, en signe de dénégation. Et il lâche « 14 ans, putain !» T'as qu'à croire, comme si son fils en avait 10 de plus déjà. Après quoi, Steven se plaint que personne ne l'aime dans la famille. Leur maison est de plein pied, c'est une petite baraque. Lorsque Steven est né, ils ont rajouté une extension. Ça fait une maison de plein pied, mais avec un étage supplémentaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le père de Brian explique qu'ils l'ont acheté il y a 25 ans à un de ses collègues qui ne venait jamais sur l'île parce qu'il n'aimait pas la mer. Steven, qui ne peut pas se contenir, mime une brasse dans le vide et Raska essaie de lui lécher le visage. Après la troisième bière, le père de Brian me conseille de ne pas repartir boiteux et il charge Brian d'aller chercher la bouteille de pastis. Marie-Pierre dit « Je t'avertis, Pascal, tu viendras pas te plaindre si demain t'arrives pas à te lever. » Elle se met debout et elle dit « Non, mais c'est bon, quoi. » Et elle quitte la table. Pascal s'essuie la bouche, ce qui ne chasse pas complètement le vague sourire que ses lèvres dessinent. Brian revient du salon avec un bol, dedans des glaçons, dans l'autre main une bouteille de pastis de 2 litres. Steven dit « Avec ça, mes couilles, vous allez chanter ». Pascal sert 3 mayonnaises que l'eau dilue à peine. Steven prend son pied comme au cinéma. Marie-Pierre est énervée. Brian s'est détendu. Après 4 verres, on prend les choses avec philosophie. Vite, ça parle football. Le père de Brian était un joueur de bon niveau, comme son fils. Forcément, toute la famille a souffert quand Brian, malgré ses années au centre de formation, n'est pas passé professionnel. L'alcool aidant, Pascal refait le match. Il dit le talent de son fils, les sacrifices, le destin. Gêné, Brian s'empresse de boire et Steven, pour une fois, la met en veilleuse. Pascal dit qu'il est fier de son fils. Et là-dessus, tout le monde a droit à une nouvelle tournée. Dans le jargon, c'est ce qui s'appelle une embuscade. Marie-Pierre revient à sa place. En fait, j'avais mal compris. D'un été à l'autre, j'oublie. Elle n'est pas en colère, c'est juste qu'elle crie au lieu de parler. Dès qu'elle débarque, Raska lui saute dessus et elle l'encourage. Steven profite de la joie générale pour boire des gorgées de mon pastis. Je suis consentant. Pascal répétera « Putain, quel phénomène ce gosse !» Quand Marie-Pierre prend des nouvelles de mes parents, je mens mal et les sourcils de Brian se soulèvent. Jusqu'à la fin du sujet, ma salive a du mal à couler. J'ai tout sauf envie de m'étaler sur Jean-Marc, sur cet entrelac de reconnaissance et de douleur qu'est la famille, surtout avec l'image de la leur avec laquelle il ne manquerait pas de comparer. Steven, qui tient maintenant une poêle dans les mains, me sauve de la gêne. Il dit « On va te nourrir, mon petit haut !» Aidé de ses doigts, une dizaine de nuggets dégringolent dans mon assiette. Marie-Pierre me tend un énorme paquet de chips et je les remercie, en disant que c'était pas la peine, avec les papilles qui frétillent. Le dessert, c'est un grand bac de glace. Pascal se lève et il trempe sa cuillère dans un verre d'eau tiède avant de constituer chaque boule. Steven lui dit « Fais pas ta pince, papy », mais juste avant de recevoir sa part. Résultat, il a le droit de se servir lui-même et de ranger le bac au congélateur pour ne pas que ça fonde. Et quand il passe devant son père, il a la chance ou l'instinct d'accélérer pile au bon moment pour éviter la baffe. Quand il est hors de portée depuis la cuisine, on l'entend dire « Olé !» Malgré le repas qui a épongé une partie de la boisson, je peine à suivre les conversations. Mon cerveau tournoie entre Noumi, le supermarché où je trime, et le cas Jean-Marc. De temps en temps, je raccroche les wagons, avec la crainte que soudain, tous me regardent parce que j'ai raté un truc important. Par politesse, je fais des efforts. Brian n'est pas dupe. Je suis un gaillard, il paraît. Et Jean-Marc dit que les gaillards, ça pleure pas. Heureusement, il fait noir. Le jardin est dénué de lumière extérieure et avec le vent qui tombe, le soir, tu peux renifler à cœur joie. Pascal a sorti le digestif comme si on avait un événement à fêter. La première gorgée me descend jusqu'aux orteils. Une fois qu'elle connaît le chemin, je savoure. Steven part laver la vaisselle avec Brian et je me retrouve solo avec leurs vieux qui ont encore l'air amoureux comme des jeunes. C'est mi-remarquable, mi-gênant. Je cherche quelque chose à rapporter à la cuisine, mais sur la table, il ne reste plus que la nappe. Ils se font des mamours. Je décède sur place. Je les écoute parler de rien en fixant les sapinettes et je discerne par erreur Raska, accroupie, qui se soulage. Marie-Pierre finit par dire bonne nuit. Je laisse une larme de sécurité dans mon verre, sinon je vais avoir droit à une seconde rasade de poire. Steven déboule un torchon sur l'épaule. Il se penche auprès de Pascal. Il dit avec une voix fluette, comme si on était dans un établissement étoilé, « Tout s'est bien passé, messieurs, dames. Les nuggets étaient-ils à votre convenance ?» Pascal lui met une bourrade en pestant et dans la continuité annonce qu'il va se coucher, m'ébouriffant les cheveux au passage. Cimer pour le gel, sa race. Au bout de 10 minutes, on estime qu'ils se sont vraiment couchés et on parle plus librement. Brian demande « Comment c'est le moral ?» Je réponds par un rire de façade qui nous entraîne vite vers un vrai rire. Steven dit que je peux rester dormir chez eux quand je veux cet été parce qu'il est comme un ouf dès que je débarque. Je dis qu'on verra et que de toute façon, si Jean-Marc cherche à se détruire, qu'il ne pense pas une seconde à nous emporter dans sa chute. Je mords mes phalanges, ça retient l'émotion qui cherche à couler. Steven entreprend de me masser les épaules, il dit « c'est bon pour le moral » et ensuite il dit que c'est même plus agréable que de se faire pomper le dard. C'est un extrait du livre « Justin coup dur » de Adrien Giraud, publié aux éditions de l'Ogre, troisième livre de cet auteur qui réside à Nantes. 19 € pour 165 pages d'un récit qui, comme on l'entend dès ce début, va aller, j'imagine, crescendo vers une forme de drame social. On n'est pas très loin finalement de certaines chansons de Bruce Springsteen. Enfin, c'est comme ça que ça m'est apparu. Mais c'est pas Bruce Springsteen qu'on va écouter. Peut-être à cause du pastis, j'ai pensé à un morceau de Alexis Gideon, que j'aime beaucoup, qui date de pas mal d'années maintenant, une quinzaine peut-être. Il s'intitule Skyrock, et c'était, quand cet Américain a débarqué en France pour une tournée, son impression autour du langage, justement, et du langage à l'époque des gens dits jeunes, qui parlaient souvent de « ça va, salut, ça va, bien ou bien », et puis on prend un Ricard, deux Ricards, trois Ricards. Il en a fait une chanson, on l'écoute.
Fitness, hey Mac, view the track.
Bien, 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 bien